Je vous invite à vous rasseoir pour commencer cette randonnée des 40 jours avec Jésus sur la montagne. Semaine 1, jour 1, c'est parti mon kiki. Alors effectivement, j'ai mis devant la scène là tout le matos pour une randonnée en bonne et due forme, le sac à dos, le petit bâton. J'ai même mis la chaussure. Ben, j'aurais pu en mettre deux effectivement, mais bon voilà, économie de mouvement et de poids. Et puis j'ai même mis un piolet au cas où nous rencontrions de la neige. Ah bah oui, vous savez, le mont Hermon au nord d'Israël culmine à 2800 mètres d'altitude. Alors en Galilée, le mont le plus haut culmine à 1400. Bon, ça va. Mais on peut rencontrer de la neige. J'ai même mis la lampe frontale aussi au cas où on arrive tard au refuge, au groupe de maison. Bon, bref. C'est parti pour 40 jours de randonnée comme Jésus dans le désert. C'est le premier dimanche de carême. C'est un peu la première fois de ma vie que je m'intéresse un peu de près au carême. Mais voilà, premier dimanche de carême qui célèbre les 40 jours de Jésus dans le désert. C'est pour ça que des amis qui célèbrent le carême font aussi un jeûne ou des jeûnes. Mais c'est pour nous le premier dimanche d'une cette randonnée biblique autour du sermon sur la montagne, avec trois pistes de randonnée. D'abord tous ensemble, un grand groupe à l'église aujourd'hui, au culte, une grande foule comme Jésus parlait aux foules et faisait un petit peu le topo de la randonnée. Hein, on fait le topo. Et puis, on a aussi une autre piste, le randonneur tout seul, qui contemple un peu le lever du soleil sur la photo, avec nos 40 jours de lecture quotidienne. Moi, je l'ai lu ce matin, c'était le jour 1, dimanche 18 février, jour 1, lundi 19 février, jour 2. Et effectivement, le titre, c'était « Heureux en marche ». Lecture quotidienne. Et puis, troisième piste. Alors, la deuxième, lecture quotidienne, je l'ai appelée, ça c'est moi qui ai inventé, la pause fraîcheur. Et puis, le troisième, en petit groupe. Là, ils sont quatre randonneurs, nos groupes de maison, le groupe refuge dans l'appartement, dans la maison de quelqu'un, un petit groupe où on se sent en sécurité pour partager. Comme Jésus rassemblait autour de lui ses 12 disciples, et même dans ses 12 disciples, il prenait à part Pierre et Jean, Jacques et André. Il avait un petit groupe dans le petit groupe, le refuge dans la rando. Alors, rappel un peu du contexte du sermon sur la montagne. Il y a eu ces 40 jours dans le désert où Jésus a été tenté par le diable, nous raconte Matthieu. Et puis Matthieu, dans le chapitre 4, présente la mission de Jésus, qui est la proclamation du royaume de Dieu. Il est le Messie. Il est le Christ, c'est le même mot, mais l'un en grec, l'autre en hébreu. Loin, celui qui est oint par Dieu, l'onction royale et l'onction de prêtre. Et on sait que Jésus a tous ses titres, roi, souverain sacrificateur. Il le présente, et il le présente comme celui qui devait venir. Et donc Jésus, il raconte les miracles de Jésus, il guérit les malades. Il chasse les forces obscures. Il est vraiment le Messie. Et puis, Jésus va monter sur la montagne et là, il va nous faire un sermon. Il va non pas nous sermonner, mais nous faire un sermon. Le sermon sur la montagne. Alors, le titre a été donné par Saint Augustin, évêque d'Hippone, d'Afrique du Sud. Afrique du Nord, justement. Au troisième ou quatrième siècle, je ne sais plus. Le sermon sur la montagne. Alors, ça serait plutôt une colline, hein? Lydie, qui a fait ce dôme magnifique, y a été, et donc a pu voir que c'est pas des sommets escarpés quand même, mais c'est une belle colline. On pourrait parler au lieu d'un sermon sur la montagne, d'un séminaire sur la colline. Une œuvre, alors un sermon, je vais quand même l'appeler le sermon parce que c'est plus simple, un sermon, mais quel sermon ? Une œuvre d'art, une œuvre littéraire qui est passée dans la mémoire populaire. Tolstoï en parle dans son dernier roman, Résurrection, qui met en scène le conte Nekhludov, en russe, et je vous lis un extrait. Voilà. Et le comte Nekhludov, c'est un peu Tolstoï, lui. Nekhludov fixa la flamme de la lampe et demeura immobile. Se rappelant la laideur de notre existence, il imagina ce qu'aurait pu être si les hommes avaient été élevés dans ces principes, les principes du sermon sur la montagne. Et un enthousiasme qu'il n'avait jamais éprouvé ou qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps envahit son âme, comme si après de longues angoisses et de longues souffrances, il avait rencontré soudain l'apaisement et la délivrance. À la lecture du sermon sur la montagne, un joyau littéraire, théologique, philosophique, poétique. Et puis Matthieu 5 commence par ces mots. Jésus, voyant ses foules, monta sur une colline et il s'assit. Ses disciples se rassemblèrent autour de lui et il se mit à les enseigner. Il leur dit. Alors à qui s'adresse le sermon sur la montagne ? Eh bien, il est question de disciples et de foules. Les disciples et la foule, ou une foule de disciples. Et même les disciples, ils sont disciples depuis quelques jours, hein. Ils sont pas vraiment encore disciples, ils sont en passe de le devenir. Et peut-être que les gens de la foule sont aussi disciples ou en passe de le devenir. Ils sont un petit peu à tous les niveaux. Et donc, le sermon sur la montagne, c'est tout public. Disciples ou pas encore, disciples intéressés. Disciple moyennement intéressé, en phase d'adhésion. C'est tout public, le sermon sur la montagne, et c'est pour toi, et c'est pour toi, et c'est pour toi aussi. Alors Jésus commence fort dans ce sermon sur la montagne. Il va nous parler de bonheur, ce qu'on a appelé après les béatitudes, du mot latin « beatus ». Béat, hein, on l'appelle, on dit pas qu'on est béat de bonheur, mais béat d'admiration. Mais bon, on pourrait traduire bienheureux, heureux. Les anglophones mettent plutôt blessed, béni. Celui qui a la faveur de Dieu, béni. Et c'est pas un mauvais choix. Alors on va le lire ensemble. Jésus dit, heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Prions. Seigneur, du haut de cette colline, c'est toi qui nous parles, c'est toi le maître, le rabbi, le maître de la vie, et c'est toi qui nous parle, qui nous touche par ces paroles. Et Seigneur, donne-nous de recevoir tes paroles, de les faire nôtres. Tu sais peut-être les obstacles qui nous empêchent de vraiment les recevoir, Mais nous te prions pour que ton Saint-Esprit ouvre les portes de nos cœurs, les yeux de nos cœurs, comme on dit dans la chanson. Seigneur, donne-moi aussi de les recevoir. On est tous en chemin avec toi et nous t'écoutons. Amen. Alors déjà, on trouve dans le Nouveau Testament des textes qui commencent par « heureux » et Dadi nous en a cité un, le psaume 84, hein, « heureux ceux qui habitent dans ta maison » et le psaume 1, « heureux ceux qui ne s'assoient pas avec les méchants, dans le conseil des méchants. » Heureux. Mais là, Jésus revisite le style des béatitudes qui existent déjà dans l'Ancien Testament. Il est la parole de Dieu, il est le maître, comme je l'ai dit dans ma prière, et il est notre maître, et il nous parle de bonheur. Alors avec le bonheur, on a plein de questions, mais de quel bonheur s'agit-il? Alors, est-ce que c'est le bonheur youpla boum tsoin tsoin? Mon fils a fait à son mariage, il a fait j'ai une photo de lui, j'ai pas osé, mais il a fait cette danse là. C'est pas facile, hein, il faut sauter sur le côté, claquer des talons et on risque de se casser la figure, il l'a pas fait. Mais voilà, bonheur youpla boum tsoin tsoin. Ou peace love happiness, le contenu du bonheur, définition du bonheur, peace and love. Et puis des questions, dis, c'est quand le bonheur? Dis, c'est quand le bonheur? Et puis avec un peu plus d'impatience, alors le bonheur c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Je l'aime bien celle-là, on est impatient quand même. Et puis vous souvenez Christophe Maé, non? C'est comme ça? C'est comme ça qu'il s'appelle? C'est lui, hein? Merci de m'approuver. Il est où le bonheur? Quel est le lieu du bonheur? Et puis à côté, cette image aussi gravée dans le sable, le bonheur, si je veux. C'est un peu français, ça, non? Hein, je veux dire, il y a personne qui va m'obliger à être heureux, quand même. Le bonheur, si je veux. Et puis une autre image qui s'appelle le chemin du bonheur. Oui, quel est le chemin du bonheur? La voie à emprunter. Et Jésus va nous parler du bonheur, mais il va le faire comme il aime le faire, comme à son habitude. Il va tout chambouler. Il va renverser les valeurs. Il va casser les codes et il va nous amener à y faire une sorte de changement radical, c'est-à-dire une sorte de conversion. C'est ça le sens de conversion. Un changement radical dans notre intelligence des choses de Dieu et de notre intelligence de notre vision du bonheur. Il nous invite à regarder le bonheur d'une manière tout à fait différente. Alors c'est difficile de parler des béatitudes sans briser un petit peu leur impact littéraire, émotionnel. Non, pas littéraire, émotionnel, parce qu'elles viennent du percuter. Elles viennent nous rejoindre à l'intérieur, mais nous allons quand même dire quelques mots sur chacune des béatitudes. Et pendant que je fais la liste en commentant, je vous invite à réfléchir, à penser quelle est la béatitude qui vous touche, qui vous interpelle plus particulièrement, qui crée un écho en vous, qui trouve un écho en vous. La première béatitude, heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume de Dieu leur appartient. Littéralement, heureux les pauvres en esprit. Alors ça ne s'applique pas, il est des questions spirituelles ici, ça ne s'applique pas à des handicaps mentaux, mais à ceux qui se reconnaissent comme spirituellement pauvres. C'est-à-dire, qui reconnaissent leurs besoins, leur manque de Dieu, qui ne se satisfont pas d'eux-mêmes, mais qui reconnaissent qu'ils sont en manque, qu'ils sont en pauvreté. ou qui sentent dans leur cœur un vide en forme de Dieu, comme le disait encore saint Augustin. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Alors, quels pleurs ? Les pleurs de la déception, les pleurs du deuil, simplement la tristesse de la vie, la mélancolie de la vie, pleurs de solitude, on ne sait pas. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que dans les pleurs, ceux qui pleurent sont bénis. Parce que Dieu est là, parce qu'il essuiera toute larme de leurs yeux, parce qu'il séchera toute larme de leurs yeux, parce que la mort ne sera plus, parce que les souffrances auront disparu, je cite l'Apocalypse. Et moi je pense aussi, Jésus là renverse encore une fois les valeurs en disant « heureux ceux qui pleurent ». Parce que aujourd'hui, il me semble que le bonheur est du côté de ceux qui rigolent. Et d'ailleurs, on le dit parfois, ça rigole pour lui. Bon, ça marche pour lui. Ça rigole pour lui. Les rigolards, les hilards. Mais il y a de la place pour le rire dans la vie. Je suis bien placé pour savoir que le rire est bon. J'aime rire. On va pas jouer au triste cire, mais il faut savoir qu'il y a une place toute spéciale dans le cœur de Dieu pour celle qui pleure. Pour celui qui pleure. Pour ceux qui pleurent, quelle que soit la raison. Il y a une sorte de communion avec Dieu. Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux les humbles de cœur, on pourrait traduire. Heureux les débonnaires, si vous vous souvenez de vos anciennes versions, les débonnaires. Il n'y a que dans la Bible où on avait ce mot. En tout cas, dans mon vocabulaire, il est pas très. C'est un vocabulaire passif, hein, débonnaire. Je dis pas à quelqu'un, waouh, tu m'as l'air débonnaire. Mais voilà, heureux les doux, les humbles, pas les brutes. Pas les agressifs qui rendent coup sur coup. Pas les gagnants, les winners qui écrasent tout le monde, qui abusent de leur autorité, de leur pouvoir, de leur réputation. Non, heureux les doux, les humbles. Et comme le dit le Nouveau Testament, recherchez ce qui est humble. Recherchez l'atmosphère de l'humilité. Recherchez les gens qui sont humbles. Vous en tirerez quelque chose et vous serez bénis. Heureux les humbles, renversement encore des valeurs. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les morts de faim. C'est un terme au football pour dire, ouais, l'équipe de Bordeaux, elle était morte de faim. Elle avait envie, alors que l'autre équipe de Saint-Étienne, il y avait Stéphanois, ma mère est Stéphanoise aussi, bon. Et ils n'étaient pas morts de faim. Mais un mot pour désigner ceux qui ont faim et soif, ceux qui en veulent plus. Mais là, il s'agit de justice. Mort et faim de justice, de la justice devant Dieu, une vie juste, selon Dieu, devant Dieu, mais aussi la justice sociale, également, extrêmement présente dans la Bible, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, dans les paroles de Jésus aussi. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, qui ne se satisfont pas non plus du statu quo ou de l'indifférence générale. Moi, je me souviendrai, c'est encore un souvenir d'un peu du siècle dernier, mais de Bernard Kouchner et de ses colères médiatiques, où il parlait de ce devoir d'ingérence dans les pays qu'on appelait encore les pays du tiers-monde et qui étaient en souffrance, en famine. Il piquait des colères médiatiques magnifiques. Alors je pense qu'elles étaient sincères, et j'espère bien, mais en tout cas, il m'a impressionné. Voilà un mec qui avait faim et soif de justice. Heureux ceux qui témoignent de la bonté. Car Dieu sera bon pour eux. Heureux les bons. dans les campagnes ardéchoises, ma mère, qui était de Saint-Étienne, mais de Saint-Agrève avant, me disait, chez moi on dit « bon et bête », ça commence par la même lettre. Quand on est bon, on se fait avoir. Quand on est bon, on y perd. Ça vaut pas le coup d'être bon. Mais Jésus renverse les valeurs et il dit « si, ça vaut le coup d'être bon. » Car Dieu sera bon avec toi. Non, pas comme un échange de bons procédés, du donnant, t'es bon, je serai bon, mais non pas non plus comme une condition, mais comme une communion avec, tu vois. Avec, quand on est bon, on est dans, avec Dieu dans le bon, dans le bien. À Alpha, j'ai insisté souvent sur le fait qu'en grec, le mot kalos signifiait à la fois bon et beau. À la fois le côté moral et le côté esthétique, le même beau, le même mot, bon et beau. Quand on est bon, on rentre dans la beauté de Dieu. Heureux ceux qui ont leur cœur pur, car ils verront Dieu pur ou purifié. Qui pourrait dire, moi je suis complètement pur. Mais on pourrait aussi parler pour un cœur pur, pour un cœur non partagé. Le fameux dipsychos de l'épître Jacques. Deux âmes, l'homme partagé, qui aurait une sorte de double personnalité, si ce n'est une double vie. Non, un cœur authentique, sans hypocrisie. Alors est-ce que c'est possible ? Eh bien, David le réclame en tout cas après avoir fait une chute royale avec Bathsheba. Et dans le psaume 51, c'est son psaume, ses paroles de repentance, il dit « Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, crée en moi un cœur pur ». Voilà, c'est Dieu qui va le créer et c'est un appel que... On veut vivre pur devant toi. J'aime bien la réponse aussi, la promesse, car ils verront Dieu. J'ai l'impression que Dieu se laisse voir par des gens qui sont authentiques, transparents, dans le bon sens du terme. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour siens. Pour ses fils, et là aussi une belle inversion des valeurs, heureux les paisibles et non les belliqueux, alors que la guerre couve aux portes de l'Europe, ou la guerre est là aux portes de l'Europe, heureux, nous dit Jésus, ceux qui procurent la paix, heureux et malheur à ceux qui commencent la guerre et qui propagent la haine, malheur à ces gouvernants qui se lancent dans des entreprises guerrières et belliqueuses, malheur à ceux qui les soutiennent. J'avais des noms, mais je ne vais pas les dire, de ces gouvernants. Malheur à ceux qui tiennent, même dans des pays en paix, des discours de haine. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice. Et oui, ça existe. Des gens qui sont opprimés parce qu'ils font le bien, parce qu'ils font, parce qu'ils proclament la justice. Il y a Navalny, l'opposant russe, qui est mort. En prison, un système pénitentiaire, dans le nord, près de du cercle arctique. Je connais pas bien son histoire. Mais je pense qu'on peut dire à sa famille, sa femme, à ses enfants, qu'il est heureux aux yeux de Dieu parce qu'il a été opprimé pour la justice. Je ne vais pas le béatifier, hein, je ne vais pas faire de lui un saint. Mais voilà, quelques commentaires sur les béatitudes. Quelle est la béatitude qui vous touche ? Alors, quelques remarques conclusives sur les béatitudes. On note le présent des béatitudes 1 et 8. de la première et de la huitième béatitude. Toutes les autres sont en futur, car ils verront Dieu, car ils seront rassasiés, car ils seront appelés fils de Dieu. Mais la première et la huitième, c'est « car le royaume des cieux leur appartient ». On est au présent. C'est maintenant. Et nous sommes, quelque part, déjà dans le déjà, et le pas encore, également. Jésus dit, quand il parle à ses disciples, « le royaume s'est approché de vous ». Et quand il nous parle des béatitudes, même au futur, ce n'est pas ça. Tout n'est pas dans l'avenir. Lors du retour de Jésus-Christ, il y a des choses pour lesquelles nous devrons attendre pour une parfaite libération, pour une parfaite guérison, pour une parfaite consolation. Mais il y a des choses qui sont déjà là. Et le fait d'être en Dieu avec lui sur la route du bonheur, on y goûte, on le touche déjà. Goûtez au Seigneur et vous verrez comme il est bon. Et donc il y a aussi une invitation à s'engager maintenant sur cette route et peut-être être le témoin de ce bonheur-là dans le monde, de faire bouger les lignes. Notons le présent des béatitudes. C'est hic et nunc, ici et maintenant, que nous pouvons vivre ce bonheur. Et donc, je repense cette expression de la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine, que j'ai faite il y a 40 ans maintenant, où on parlait toujours, il y a dans la vie chrétienne le déjà et le pas encore. Il y a des choses que nous avons déjà, et il y a des choses que nous n'avons pas encore. Il faut pas se concentrer simplement sur le pas encore en disant pour l'instant c'est une vie horrible, mais on aura notre récompense plus tard. Non, il y a le déjà nous sommes en marche, déjà la vie éternelle a commencé, déjà il y a du bonheur de vivre avec Dieu. Et puis, on remarque aussi, on note qu'il s'agit d'une déclaration de bonheur, et non pas une définition du bonheur. Dieu déclare heureux. Dieu, par la parole de Jésus, Dieu lui-même, la parole faite chair, nous déclare heureux dans ses béatitudes. Et quand on entend une déclaration, c'est comme une déclaration d'amour. Il n'y a rien à faire. On la reçoit. Et on s'en délecte. On la prend pour soi. On la comprend. Non, il n'y a rien à faire. Dieu nous déclare heureux, humble, artisan de paix, pauvre en esprit, etc. Mais en même temps, on peut pas tout à fait en rester là. Il y a une réponse à donner au moins, comme dans une déclaration d'amour, on est tout ému, ça nous fait chaud au cœur. Mais à un moment, à une déclaration d'amour, il faudra quand même y répondre en disant je t'aime moi aussi ou non. Mais il va falloir répondre. Et donc, on note qu'il s'agit d'une déclaration de bonheur et qu'elle demande une réponse de notre part. Parce que le bonheur dont nous parle Jésus n'est pas une recette, un petit peu de ceci, un petit peu de cela, un peu d'amour, une louche d'argent, un peu de chance, et surtout la santé. Non, pour Jésus, le bonheur ne se cuisine pas, il ne se mérite pas non plus, il ne se gagne pas non plus. Non, quelque part, le bonheur se choisit. Le bonheur serait un choix. On se choisirait heureux selon les béatitudes, bien entendu. Et donc, l'expression qu'on a vue tout à l'heure, le bonheur, si je veux, même si c'est une boutade à la française, mais elle est un peu vraie parce qu'elle met l'accent sur la place, je dirais, de la volonté, entre guillemets, hein, dans le bonheur, dans le choix, dans la réponse à cette déclaration du bonheur. Oui, donc, les béatitudes demandent une adhésion du cœur. Notre cœur est touché, il nous déclare heureux. Et si on vit ces situations-là, ça nous fait chaud au cœur. Mais elles ne demandent pas qu'une adhésion du cœur. Il y a aussi un désir de suivre ce chemin du bonheur, de prendre cette voie-là, peut-être de le défendre aussi dans ce monde, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, de résister au chant des sirènes, comme dans l'Iliade et l'Odyssée, et résister aux marchands de bonheur. Et Dadi l'a cité tout à l'heure, heureux selon Chouraki, un hébraïsant qui traduit de français en hébreu, puis qui retraduit, etc., disait que dans Makarios, le terme choisi ici, il y avait le fait d'être en marche. On s'engage sur ce chemin du bonheur. Alors on note aussi, troisième remarque, qu'il s'agit en fait d'un portrait de Jésus. C'est lui qui est béni. C'est lui, le spirituellement pauvre, qui s'écartait de la foule pour aller prier dans le désert, proche de son Dieu, proche de Dieu, le Père. Besoin de communion avec le Père. C'est dans le jardin de Gethsémané qui montre son besoin d'être renouvelé dans sa mission à Dieu. Si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Je suis fragile, je suis en manque de toi. C'est lui qui pleure quand son ami Lazare meurt et il est dans le tombeau. Le plus court verset de la Bible, dans Jean 11, Jésus pleura. C'est Jésus qui pleure sur Jérusalem. Jésus est ému dans ses entrailles, comme dit le texte original, dans la langue originale, l'émotion dans les entrailles. « Mon âme est triste jusqu'à la mort », dit-il dans le jardin de Gethsémané, encore une fois. Oui, Jésus pleure. Jésus procure la paix, c'est un homme de paix, c'est le prince de paix. Sur la croix, il dit encore « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». Jésus apporte le pardon et la réconciliation, c'est-à-dire la paix. Un homme de paix, il devrait recevoir chaque année le prix Nobel. Il témoigne de la bonté, il guérit les aveugles, les sourds, les gens qui sont mis de côté. Il accueille Zachée, le publicain, le péager. Enfin, il s'accueille chez lui, il va chez lui. Et même ceux qui refusent de le suivre, le jeune homme riche qui s'en alla tout triste, il nous est dit que Jésus l'aima. Il est plein de bonté, Jésus, et il a faim et il a soif de justice. Il défend la veuve, le lépreux, le publicain, l'enfant, et il se bat jusqu'au bout pour la justice, pour ma justice, pour ta justice, pour ma justification, pour ta justification, pour que notre vie soit justifiée. Il prend sur lui tout ce qui l'injustifiait, tout le mal personnel, tout ce qui me séparait de lui. Il est venu non pas pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup, pour que justice soit faite. Il avait faim, il avait soif de justice. Et il a été opprimé pour la justice, une oppression énorme, une pression énorme dans les 40 jours dans le désert où il est tenté par le diable. Le diable essaye une chose, c'est qu'il ne passe pas par la croix. Si tu t'inclines devant moi, tu recevras la terre et les nations en héritage, dit le diable, l'adversaire, le destructeur. Et Jésus, de toute façon, il a le monde, il est le maître de l'univers. Mais ce que le diable lui propose, c'est de ne pas passer par la croix pour ça. Mais Jésus, et il fait pression, mais Jésus résiste. Une pression aussi des autorités juives, une pression des Romains, une pression de ses propres disciples qui ne croient pas en lui, qui l'abandonnent, qui le renient. Il a été opprimé pour la justice, pour sa mission de justice, il a été mis sous pression. Oui, c'est le portrait de Jésus, ces béatitudes, c'est Jésus. On avait un ami, un jeune juif américain qui venait à l'église d'Orléans. Et il racontait son histoire, c'est que quand il était encore à high school, une jeune fille lui avait donné, chrétienne, lui avait donné une Bible, avec donc le Nouveau Testament. Bible hébraïque, plus Nouveau Testament. Et c'est à la lecture des évangiles que ce garçon s'est dit, ce Jésus, c'est quand même une personne formidable. Quel homme! Ce Jésus, quelle personnalité, quel portrait de Jésus. Et il avait envie de devenir comme lui. Et si nous notons que ces béatitudes, c'est aussi le portrait de Jésus, nous notons que nous sommes ses disciples également. Et que ce portrait de Jésus dans les béatitudes pourrait nous servir en tant que disciples qui désirent ressembler au Maître, qui désirent être comme lui. Et en fait, ces béatitudes, ce serait comme la carte d'identité de tout citoyen du royaume, c'est-à-dire le disciple de Jésus-Christ, une carte d'identité. Et quelqu'un a dit... Les béatitudes sont de quelque manière la carte d'identité du chrétien qui l'identifie comme disciple de Jésus-Christ. Les béatitudes sont de quelque manière la carte d'identité du chrétien qui l'identifie comme disciple de Jésus-Christ. Et c'est un certain François qui a dit ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Le frère François. Allez, le pape François. Et je l'aime bien, François, le frère François. Il dit de belles choses, et notamment celle-ci. Ces béatitudes qui m'identifient comme disciple de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, un autre pape, mais du monde évangélique, qui s'appelle John Stott, qui a écrit ce livre sur Sermon sur la montagne, il a noté comme titre pour les béatitudes le caractère du chrétien. Les béatitudes, c'est notre caractère, un caractère qui se façonne en randonnée avec Jésus, étape après étape. On parle le grand mot de sanctification. On parle des fruits de l'esprit dans Galates 5, le fruit amour, paix, patience. Et ouais, on a envie de devenir comme Jésus, par sa grâce, pour sa gloire. Le Jésus décrit par les béatitudes. Ouais, c'est un portrait de Jésus, mais nous sommes ses disciples. Heureux es-tu ? Heureux êtes-vous ? Heureux sommes-nous d'être ou de vouloir être, essayer d'être des disciples de Jésus, de le suivre et de l'écouter dans son sermon sur la montagne. Alors vous avez devant vous ce magnifique monde des béatitudes qui a été construit par Lydie en une nuit, en deux nuits, en deux jours. En trois jours. Bref. Et voilà, j'ai mis Jésus, j'ai fait un peu de travail manuel, là. Je me suis amusé, mais j'ai mis Jésus en haut. Et puis, j'ai mis des petites languettes de bois. Alors, c'est pas des piloris, c'est pas pour vous mettre au pilori, mais pour que chacun peut-être se mette là. Alors, j'ai déjà mis deux petites figurines. Il y a un type. Il s'appelle Eric, là, et il y a une dame qui s'appelle Yvonne. Alors, ça, c'est pas pour faire les faillots, là, les gens du premier rang, là, mais pour vous dire comment faire. Et comme un geste, voilà, on veut s'engager dans cette randonnée, on veut être là. Ben, je vous propose, après le culte, hein, de prendre une petite figurine, d'écrire votre nom. Vous pouvez même, j'ai mis mes crayons de couleur, que je prête à personne normalement, pour dessiner la jupe ou un petit peu ou le pantalon pour monsieur ou autre chose, de mettre votre nom, de prendre une petite pince à linge, elles sont trop magnifiques, et de le mettre sur la petite languette. Alors, je sais pas avec quoi tu l'as fait, Lydie, mais j'ai eu du mal à faire des trous dedans. J'ai voulu prendre un marteau-piqueur, presque. C'est dur comme du béton, c'est du rocher ou quoi. Mais donc, mais j'ai pris mon couteau de rando. S'il faut faire d'autres trous, appelez-moi. Hein, voilà, le couteau de rando, appelez-moi. Allez, parfois il faut joindre le geste à la parole. Seigneur, comme disait le petit Samuel, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et nous sommes tous et toutes des servantes et des serviteurs du Seigneur. Des servantes et des serviteurs en marche. Pas encore et pas toujours parfait, mais en marche.